France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour. Alors que l'on évoque, envisage même son transfert au Panthéon, Berlioz fait la une de l'actualité musicale en cette année 2019. Les concerts, les disques, les livres ne manquent pas de célébrer les 150 ans de sa disparition. L'ouvrage que je vous propose de découvrir aujourd'hui n'est pas une biographie ni un essai sur la musique, mais un regard sur l'évolution du paysage berliozien depuis 150 ans, une étude sur la réception de sa musique, de ses écrits et même du compositeur. Hector Berlioz, 1869-2019, 150 ans de passion, sous la direction d'Alban Rameau et d'Emmanuel Rebel, aux éditions Edam Musiqué. L'Orchestre symphonique de Londres sous la direction d'André Prévin, c'était le début de l'ouverture, le corsaire d'Hector Berlioz. Bonjour Emmanuel Rebel.
Bonjour.
Vous êtes musicologue, vous enseignez à l'université de Lyon 2 et vous avez donc coordonné avec Alban Rameau cet ouvrage, un ouvrage collectif consacré à Berlioz, 150 ans de passion avec un S, un ouvrage qui s'organise en trois parties, tout d'abord un peu l'homme, la figure de Berlioz, puis après l'œuvre, et puis ensuite l'évolution de la recherche sur la musique, les écrits de Berlioz depuis 2003. Alors, qu'est-ce qui a vraiment évolué en 150 ans à lire cette première partie, notamment vous avez signé un article sur la réception de la figure de Berlioz, où on le présentait au départ. Peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, vous allez me dire, comme une sorte d'exalté, échevelé, l'archétype du romantique volcanique. Est-ce que ça perdure ou est-ce que la recherche a permis peut-être d'affiner un peu le portrait du compositeur? Et c'est quand même une composante réelle de sa personnalité, non?
Alors oui, c'est un échevelé. Du moins, il se met en scène lui-même comme tel dans ses mémoires. Ouais. Et c'est vrai que toute la réception de Berlioz a plutôt eu tendance à forcer le trait, mais Berlioz est le premier responsable de, je dirais, ce stéréotype qui parfois lui fait un peu de mal parce que beaucoup de musiques de Berlioz sont des musiques très intimistes, très coloristes et pas forcément des musiques tout à fait exaltées comme on peut l'imaginer en voyant certaines caricatures de Berlioz.
Diriger des canons, des choses
voilà.
comme ça.
Oui, oui. Donc je dirais que cette image-là et la tendance à réduire un petit peu le spectre de sa musique qui est si inventive, si originale et si diversifiée aussi. Et c'est vrai que c'est une image qui s'est enracinée dans la culture populaire, qui a été également colportée par ses premiers biographes. Qui ont livré des biographies qui se voulaient tout à fait scientifiques, c'est-à-dire fondées sur la correspondance et sur des faits, mais en même temps qui romançaient parce qu'il y avait un goût de l'écriture dans les premières biographies de Berlioz qui faisait que on écrivait autour de ce héros, comme on disait, et pas simplement de ce compositeur. Et donc, bien sûr que le travail de la musicologie tout au long du 20e siècle et aujourd'hui, le 21e, a pour but, je dirais, d'affiner l'image de ce que fut réellement l'homme.
Oui, parce que on le considère encore comme le maître de l'orchestre, ce qui est exact, mais on peut avoir tendance à penser que c'est une musique qui est exclusivement bruyante, qui est toujours dans les tutti d'orchestre, dans le fortissimo, dans le déploiement de grandes forces chorales et orchestrales. Et vous l'avez dit, ce n'est pas que ça, évidemment.
Pas du tout. On peut imaginer, écouter, je ne sais pas, dans l'enfance du Christ, des moments extrêmement extatiques et d'une grande finesse. Dans Béatrice et Bénédicte aussi, une toute autre veine. Et puis Berlioz, bien sûr, c'est un grand maître de l'orchestre. Il a révolutionné la façon dont on a pensé l'orchestre. Il est l'auteur d'un des tout premiers traités d'orchestration. Mais en même temps, c'est aussi un homme des voix, c'est quelqu'un qui a adoré l'opéra, qui aurait aimé sans doute écrire davantage d'opéra, mais qui a un sens du lyrisme et des voix qui est tout à fait exceptionnel et qui culmine dans Les Troyens, qui est son grande œuvre testamentaire.
Bien sûr,
donc il y a des tas de visages en fait musicaux de Berlioz différents, et c'est la raison pour laquelle il est parfois embêtant de le réduire à un stéréotype.
Mais Emmanuel Rebel, est-ce que Berlioz est aussi l'enfant de son siècle, l'enfant de son époque, l'enfant du romantisme, du Paris des années 1830-40?
Oui, d'une certaine façon, il est emblématique de ce Paris des années 1830, 1840, 1850, un petit peu comme les Victor Hugo en littérature ou Delacroix en peinture. C'est d'ailleurs Théophile Gautier qui décernait une sorte de trinité romantique avec les trois hommes, les trois artistes que je viens de citer. Mais il faut aussi reconnaître que Berlioz s'est toujours mis aussi un peu en marge des courants dominants de son temps. Il était très critique vis-à-vis de la musique de Rossini alors que tout Paris vénérait Rossini à la fin des années 20. Il a été à la fois, je dirais, fasciné, mais aussi réservé par rapport au genre du grand opéra, illustré par Meyerbeer, Halévy et même Donizetti en son temps. Lui-même ne se reconnaissant pas dans un genre, disons, trop marqué par le capitalisme industriel naissant, pour le faire un peu vite, et au temps du Second Empire, alors que tout Paris s'affole pour Offenbach et bientôt va se passionner pour Wagner quelques années plus tard, Berlioz est là aussi un petit peu en dehors du champ. Donc à la fois c'est un produit de son époque et c'est aussi quelqu'un toujours en décalage par rapport à son temps.
Évidemment, ça gratouille, il y a un peu de souffle, mais c'est un enregistrement qui a quand même presque un siècle, enregistré en 1924. C'était la première interprétation, le premier enregistrement de la Symphonie Fantastique, un extrait de la Marche au Supplice. C'était l'orchestre des concerts Pas de Loup, dirigé par René Baton. Emmanuel Rebel, puisqu'on fait justement le bilan un peu depuis en 150 ans, l'évolution de la réception de la musique et de l'œuvre de Berlioz en général, puisque ça comprend aussi ses écrits. Il y a un article qui est dévolu à la discographie, la part de la discographie, l'évolution de la discographie. Évidemment, bien sûr, on sait que des interprètes comme John Le Gardiner, qui signe d'ailleurs la préface hein, de votre livre, a beaucoup fait pour faire évoluer cette interprétation de la musique de Berlioz avec le recours de son orchestre révolutionnaire et romantique, le recours aux instruments d'époque. Je vais pas vous demander comme ça en deux mots comment elle évolue en 150 ans, comment l'interprétation de Berlioz a évolué. Mais il y a également un article sur l'évolution de la mise en scène et sa réception à l'Opéra de Paris depuis donc 1859. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que, c'est pas une impression, que Berlioz a quand même connu de nombreux déboires à Paris, notamment à l'Opéra de Paris. Est-ce que le temps de Berlioz est arrivé aujourd'hui? Est-ce qu'au XXIe siècle, en France, en 2019, le temps de Berlioz est arrivé?
Oui, je pense qu'on peut le dire, et peut-être même depuis quelques années déjà, en 2003, pour le bicentenaire de la naissance de Berlioz, il y a eu beaucoup de manifestations, cette grande exposition à la Bibliothèque nationale de France et dans les programmations musicales. Sans doute le temps de Berlioz est arrivé. On peut malgré tout regretter que ses œuvres soient pas suffisamment diversifié dans les programmations de concerts.
On joue toujours la Symphonie Fantastique.
On joue souvent les mêmes œuvres.
Harold et peut-être les nudités.
Hélas, on ne voit pas suffisamment de production des opéras de Berlioz sur les scènes françaises. Et bien souvent, ce sont les scènes allemandes ou anglo-saxonnes qui ont, mais ça c'est de longues traditions.
C'est historique, oui.
Qui ont défendu Berlioz. Mais bien entendu, ce livre hein, que nous avons voulu consacrer à la réception, oui, mais à la façon aussi plus largement dont on l'a interprété, aimé, détesté parfois. La construction de la figure de Berlioz et de
en Russie notamment, il y a un chapitre passionnant.
Il y a un chapitre sur la Russie parce qu'effectivement les Russes ont adoré.
Quand il est allé, il était très bien reçu.
Il était très bien reçu de son vivant et la génération d'après, si je puis dire, avec Moussorgski, Rimsky-Korsakov, qui ont été passionnés par son orchestre
bien
et
sûr.
Qui ont beaucoup contribué, je dirais, à diffuser sa musique à l'étranger. Donc en fait, c'est assez vertigineux de partir de 1869 à un moment où effectivement la stature de Berlioz est respectée en France. Il est académicien tout de même sous le Second Empire, mais sa musique toujours un peu mal aimé. Et quand même, c'est assez fascinant de voir comment, d'une part, s'est disséminée sa musique à l'étranger, et comment en France, progressivement, et je dirais même assez rapidement, c'est une figure qui s'est canonisée, sous la Troisième République déjà, qui était une période qui se cherchait des héros républicains. Et de ce point de vue-là, Berlioz a été hissé à une stature qui permettait de contrebalancer la figure wagnérienne, trop allemande, évidemment, pour être admise comme une figure patrimoniale en France. Et donc, dans le livre, on a aussi reproduit, par exemple, plusieurs iconographies de statues Berlioz qui se mettent à être érigées en France, pas simplement à la Côte-Saint-André, son village de naissance, mais aussi à Paris, à Monte-Carlo, à Grenoble et dans d'autres villes, sans parler de tous ces patronymes Berlioz qui s'imposent dans les rues, dans l'espace public. Qui montre une figure, disons, qui est respectée, qui compte, je dirais, dans l'imaginaire, presque dans le roman national de la culture musicale française, mais qui reste toujours, d'une certaine façon, à redécouvrir, parce que on a plus vite fait de diriger des statues que de jouer réellement son œuvre.
Berlioz, héros français face à Wagner, dites-vous Emmanuel Rebel, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, la figure de Berlioz était un peu différente.
Un peu différente, effectivement. Et là, nous avons reproduit un chapitre de Yannick Simon consacré à la figure de Berlioz sous l'occupation, qui est très intéressante parce que Berlioz, qui se disait lui-même aux trois quarts allemand, a été, je dirais, récupéré dans les deux camps. Il y a une histoire qui est très intéressante, c'est celle du film de la Symphonie Fantastique de Christian Jacques, certains certains de nos auditeurs ont peut-être vu ou qui est très intéressant de revoir, parce que même si ce film romance totalement la vie de Berlioz, il est d'une part très bien interprété par Jean-Louis Barrault, qui est extraordinaire dans ce rôle de Berlioz, mais aussi justement il est passionnant par le fait que sous l'occupation produit par la Continental, firme allemande, on se met malgré tout à faire un hommage à l'art français. Et donc plus largement, c'est aussi très intéressant de voir comment cette figure Berlioz, puisque c'est l'objet du livre, est l'objet justement de récupération idéologique ou d'enjeux politiques qui dépassent totalement ce que Berlioz a pu être en son temps.
Le Monteverdi Choir, l'orchestre révolutionnaire et romantique dirigé par John Elliott Gardiner, c'était le Sanctus, extrait de la messe solennelle d'Hector Berlioz. Emmanuel Rebel, on avait commencé à parler un peu de l'interprétation, de l'évolution de l'interprétation de la musique de Berlioz. Le chapitre consacré à la discographie, au patrimoine sonore, signé Elisabeth Giuliani, répertorie pas moins de 2500 interprètes qui se sont approchés de la musique de Berlioz entre 1901 et 2018. Quelques œuvres phares, évidemment, la Damnation de Faust, la Symphonie fantastique et Les Nuits d'été. Bon, cette œuvre de jeunesse, cette messe solennelle récemment redécouverte et enregistrée donc par Gardiner. Gardiner, qui donc signe l'avant-propos de votre livre, a été un des fers de lance comme de la redécouverte sur instrument d'époque de cette musique.
Oui, tout à fait. Je dois dire qu'à titre personnel, je garde un souvenir incroyable de ces Troyens exécutés au théâtre du Châtelet en 2003, avec ces instruments qui étaient encore très très peu souvent entendu il y a un peu plus de 15 ans, et qui tout d'un coup donnait une image de Berlioz tout à fait différente de celle qu'on pouvait entendre.
Dans quel sens?
Par exemple, les interprétations que moi j'avais dans l'oreille, c'était l'intégrale de
Colin Davis.
De Colin Davis, bien sûr. Et il y avait là, surtout pour les scènes fantastiques des Troyens, qui sont très cuivrées, et donc c'est surtout sur les instruments de cuivre qui avaient les plus grandes différences, je dirais, de timbre. Il y avait là une sorte d'étrangeté sonore qui s'imposait à l'auditeur et qui donnait une nouvelle fraîcheur, vraiment, à cette musique. Et je dois dire que justement, ça mettait aussi à mal le cliché du Berlioz trop bruyant, excessivement
trop cuivré,
justement, et trop cuivré, parce que justement l'emploi qu'il fait des cuivres peut bien se comprendre à l'aune justement de l'organologie de l'époque. Et de ce point de vue-là, on peut vraiment dire que Gardiner a fait un formidable travail dans le dans une autre façon d'entendre et d'interpréter Berlioz.
Et il a évidemment fait des émules, et aujourd'hui il y a d'autres orchestres d'instruments d'époque qui interprètent cette musique de Berlioz. Mais il y a également, si on veut faire un retour vers la Russie qu'on évoquait tout à l'heure, il y a quelqu'un comme Gergiev qui est passionné par la musique de Berlioz, qui l'interprète avec un orchestre, enfin son orchestre, de façon plus traditionnelle, je veux dire.
Oui, mais ça c'est caractéristique de notre époque, je dirais, qui a d'une part digéré la leçon des interprétations historiquement informées et qui les a réintégrées dans un, je dirais, dans une approche plurielle, et donc nous pouvons entendre plusieurs Berlioz et Dieu merci.
Et il y a aussi une évolution, puisqu'on parle de l'interprétation de cette musique dans la mise en scène. Est-ce que aujourd'hui il y a une mise en scène type, ou au contraire, comme tout opéra, comme toute mise en scène d'opéra d'aujourd'hui, toutes les possibilités sont recevables et envisageables?
Alors, c'est un sujet assez brûlant, d'autant que les Troyens récemment donnés à la Bastille ont suscité beaucoup de polémiques. J'aimerais qu'on puisse avoir des dizaines de versions des Troyens à comparer, ce qui n'est pas le cas, parce que ils sont pas suffisamment nombreux, et je dois dire que c'est vrai que pour une institution comme l'Opéra de Paris, c'est une très grande responsabilité de choisir un metteur en scène, parce que on sait très bien que des Troyens, on peut en entendre que peut-être tous les 15 ans au mieux, et donc cela engage beaucoup de choses, beaucoup plus si vous voulez que lorsqu'on programme un Rossini ou un Mozart mais c'est vrai qu'on a vu des mises en scène très très différentes de Berlioz, et dans l'ouvrage il y a un chapitre de Michela Nicolai sur la Fura del Baus par exemple, cette compagnie catalane qui a mis en scène tout Berlioz, y compris la Damnation, et y compris des spectacles un peu décalés sur Berlioz, mais qui a mis en scène aussi bien les Troyens que la Damnation, et qui propose comme toujours une version presque de science-fiction, enfin dans son esthétique visuelle, et ma foi ça fonctionne aussi très bien, et ça dialogue aussi au sein de cette compagnie avec la titralogie wagnérienne qui était proposée aussi pour l'Opéra de Valencia d'ailleurs, et qui permet de mettre en relief à la fois les points de comparaison et aussi les différences de Berlioz par rapport à Wagner dans le domaine de l'opéra. Donc oui, il y en a quand même beaucoup de possibles dans cette mise en scène.
L'amour est un flambeau, l'amour est une flamme.
Sun Graham, Béatrice, Jean-Luc Viala, Bénédicte, l'orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par John Nelson. C'était le duo final de Béatrice et Bénédicte de Berlioz. Emmanuel Rebel, c'est un ouvrage collectif, je l'ai dit, que vous avez co-dirigé avec Alban Rameau. Je crois que vous serez présent lors du festival Berlioz que dirige Bruno Messina, qui signe d'ailleurs la préface de votre ouvrage. Jean-Élotte Garnier fait l'avant-propos et Bruno Messina la préface. Festival Berlioz qui se déroule dans la deuxième quinzaine du mois d'août, donc à la Côte Saint-André.
Oui, tout à fait. Et donc, je dois remercier vraiment Bruno Messina, qui est à l'origine de l'idée de l'ouvrage. Et c'est une commande à Alban Rameau tout d'abord et ensuite avec moi. Il souhaitait pour cette année anniversaire avoir un ouvrage anniversaire également, hein, d'où l'esprit et le titre
les 150 ans
de cet
passion,
ouvrage. Et donc, nos auditeurs ou tous les fidèles du festival pourront nous retrouver, tous les auteurs de ce livre, entre le 23 et le 25 août prochain, puisque nous animerons des rencontres publiques et des débats autour de Berlioz, bien sûr.
Évidemment. Et Emmanuel Rebel, il y a dans la dernière partie, je l'ai dit, consacrée à l'évolution de la recherche depuis 15 ans, la recherche berliozienne, bien sûr. Le catalogue de l'œuvre de Berlioz a-t-il sensiblement évolué? Il n'y a pas eu de découverte fracassante?
Alors, la dernière découverte fracassante, c'est la messe solennelle. Oui. Mais donc ça commence à remonter à la fin du XXe siècle. La découverte quand même qui a secoué un petit peu le monde musicologique, c'est un nouveau manuscrit Champiano des Troyens qui a permis d'éclairer sous un jour nouveau quand même la jeunesse de cet opéra, ce qui n'est pas rien.
Oui, évidemment.
Et on fait encore vraiment des découvertes aujourd'hui. On peut toujours espérer encore en faire de nouvelles. On découvre de nouvelles iconographies Berlioz également. Et donc Günter Bram, un spécialiste allemand de la question, propose aussi de nouvelles images qui sont apparues ces dernières années de Berlioz. Et donc ce qu'on a dit également de la discographie et du renouveau permanent de l'interprétation berliozienne fait que nous ne cessons d'avoir du grain à moudre sur ces nouveautés berliosiennes.
Et Emmanuel Rebel, cette partition Champiano, elle a été découverte, c'était vraiment le fruit d'une recherche ou c'est plutôt le fruit du hasard?
Alors, c'est le fruit du hasard, si ma mémoire est bonne. Je n'ai plus l'histoire exactement en tête. De façon générale, ces découvertes sont souvent les découvertes du hasard. Comme cette partition de la messe solennelle
en Belgique.
De façon incidente. Et donc, on peut encore espérer trouver certaines partitions de jeunesse de Berlioz qui sont déclarées perdues, voire brûlées. Mais il ne faut pas se fier à ce que nous raconte Berlioz. Et il est possible qu'on fasse de belles découvertes encore.
Très bien, merci beaucoup Emmanuel Rebel. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Alban Rameau, Hector Berlioz, 1869-2019, 150 ans de passion et qui vient de paraître aux éditions Edam Musique. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Manuel Couturier, attaché de production Annie Comier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.